pied sur terre, Sonia Kronlund.
Personne n'ose provoquer l'avenir. Faudrait être fou pour provoquer l'avenir.
Dans quel état se trouve la République française au lendemain de cette élection présidentielle? A-t-on gagné en liberté, en égalité, en fraternité? Comment nos institutions vont-elles sortir de ce tambour de machine à laver lancé à 1500 tours minute pendant quelques mois qui nous ont paru des années? Par quelle abjection, écouba, par quel nom d'oiseau, quelle trahison sommes-nous passés pour en arriver là? Comment la France se remettra-t-elle d'une campagne aussi folle, aussi brutale, aussi triste au fond que celle-ci, dans laquelle le débat, l'échange d'idées et de projets ont eu si peu de place? Olivier Fourier d'Auxerre, pendant ce temps, dans notre première place de la République, les profs se sont dit qu'être prof en lycée n'était pas un métier facile. Alors ils ont décidé de se retrouver chaque jeudi soir dans le petit dortoir à côté de l'infirmerie pour une séance de sophrologie. À l'hôpital de Die, dans la Drôme, cette nuit-là, Sophie, l'infirmière de garde, fait sa tournée. Elle souhaite bonne nuit aux passants et pour qu'ils passent une bonne nuit, elle leur distribue des somnifères. À la caisse d'allocation familiale d'Amiens, enfin, à l'accueil, une famille s'inquiète de l'avancée de son dossier. Les prestations ont 2 mois de retard. La photocopieuse serait apparemment la grande responsable et coupable de ce ratage. Sophrologie, somnifère et photocopieuse, c'est notre gueule de bois, place de la République, 19e épisode, c'est jusqu'à 14h dans les pieds sur terre. Reportage Pauline Mocor, Olivier Minot et Rémi Douat, réalisé par Cécile Lafont.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
J'ai eu ma fille au téléphone qui a 23 ans et qui, elle aussi, a très peur. Et
en... Les ouvriers, enfin, on s'est tout de suite bien entendu. Je me sentais intégré.
Il y a des gens autour d'elle qui votent Macron, qui votent Le Pen.
Alex, il a pu vivre un petit peu une soirée électorale, peut-être qu'on le vit dans certaines familles.
Je ne peux pas me sentir chez moi nulle part.
Ça fait 10 fois que je vous amène des papiers.
Non, 10 fois, non.
Ah
non.
Si.
Non, je ne peux pas entendre.
Ils vont nous faire travailler jusqu'à ce qu'on crève, et puis comme ça, les caisses vont être remplies, je ne sais pas.
Lycée Fourier, bonjour.
Voilà, bien installé, mesdames. Prenez le temps de vous installer confortablement. Et quand vous êtes prête, eh bien, vous pouvez fermer les yeux. Afin d'y voir plus clair en vous.
C'est vrai que moi, le fait de faire de la sophrologie, j'arrive à prendre un peu de recul et puis se rendre compte que bon, bah, on n'est pas des sauveurs. Alors, on fait ce qu'on peut, mais quand on entend dire qu'un gamin, bah, il vient de perdre un parent et tout ça, c'est vrai que ça fait de la peine. Mais si on commence, après, c'est nous qui allons en pâtir et il faut qu'on arrive à garder cette distance et c'est pas toujours facile. On a des élèves qui sont dans une situation vraiment difficile, quoi. Ouais.
Oui, on est des êtres humains. Il y a des situations qui nous touchent, qui nous font du mal. Il y a des situations où on ne peut pas apporter forcément des réponses. On le sait que dans certaines familles, parce qu'il y a de la violence, etc., où on est impuissant, ça pèse.
Moi, après plusieurs mois de retraite, je suis toujours fatiguée. Je n'ai toujours pas récupéré tellement j'étais épuisée.
C'est extrêmement difficile de le faire comprendre à l'extérieur. Moi, j'ai encore eu une discussion avec quelqu'un de ma famille la semaine dernière, qui pourtant m'a vu toujours bosser le soir et tout, mais qui soutient qu'on est des bons à rien, qu'on fait rien, et qu'on a les vacances, alors que c'est un métier qui est épuisant, quoi.
Je faisais des insomnies très importantes, à dormir 2-3 heures par nuit, hein. Tellement ça me tracassait, quoi. Ça s'arrête pas parce que non. On a une conscience professionnelle effectivement qu'importante, parce qu'on sait aussi qu'on n'est pas remplacé. C'est compliqué.
On parlait du niveau du nombre d'élèves par classe. On a des conditions de travail qui sont absolument
absolument pas adapté. Enfin, il suffit de regarder l'incapacité qu'on est de se mettre au service de l'élève, concrètement comme on le voudrait. L'école de la République, telle que moi je la concevais quand je suis rentrée dans le métier, que j'ai choisi d'être dans le métier, je l'ai vécue au début du métier. C'est-à-dire qu'un élève qui, effectivement, était d'un milieu où il n'y avait pas accès à la culture, on pouvait l'ouvrir. Et maintenant, on n'a plus ce temps pour leur apporter de la culture, une ouverture culturelle. Et c'est dramatique. Parce qu'ils en ont besoin, ils sont demandeurs, et on n'a plus cette possibilité. Quand on a des programmes qui étudient le totalitarisme, la guerre, la décolonisation, enfin, je veux dire, on est sur des programmes qui, à la limite, seraient des programmes de L3, licence 3, pas des programmes de lycée, et au collège, pareil, hein, c'est pas mieux. Hein. Il faudrait remettre tous les programmes à zéro, en partant du principe qu'on va construire petit à petit, petite brique par petite brique, non pas des concepts, mais des choses simples, des faits, des liens entre les faits, des choses simples. On a une structure scolaire qui est extrêmement inégalitaire et qui creuse des inégalités. Mais à tous les niveaux, hein. C'est-à-dire qu'il y a l'élève qui a accès à Internet, l'élève qui n'a pas accès à Internet. On va commencer déjà par ça. C'est tout. Et bien, nous, on a des élèves qui n'ont absolument pas accès à Internet.
Le matériel, il y a des élèves qui ne peuvent pas acheter de livres, des classiques de français. Il faut être conscient de ça. Je travaillais dans la psychologie scolaire et je me souviens d'un inspecteur qui nous avait expliqué, à l'époque j'étais sur Migène, qu'il ne comprenait pas pourquoi dans Lyon on orientait autant d'enfants pour des handicaps mentaux, moteurs. Et c'était la réalité parce qu'on n'oriente pas comme ça, il y a des tests très précis, on n'oriente pas pour le plaisir d'orienter. Et en fait, il avait compris, et ça lui avait complètement échappé, qu'on était un département très défavorisé. Bah, par exemple, on prend l'exemple de Toussy. À une époque, il y avait 27 cafés. Ça veut dire qu'il y avait beaucoup de gens étaient soignés pour de l'alcoolisme, mais ça engendrait aussi des enfants qui naissaient de parents alcooliques, et donc qui avaient une répercussion génétique.
Hein. Oui. Très, très grande pauvreté urbaine, très grande pauvreté rurale. Bah, c'est-à-dire que l'allocation de rentrée scolaire, elle va servir à acheter pour l'année les baskets, le pantalon, on le souhaite. Parce que déjà, le premier problème, c'est d'avoir assez à manger, de pouvoir payer le loyer, de pouvoir payer le chauffage. Enfin, je veux dire, moi, quand j'ai une élève l'année dernière, je me souviens, j'ai un élève, il me dit, je ne vais pas me mettre à côté d'elle, elle sent mauvais. Pourquoi elle sent mauvais? Bon, je vais voir, effectivement, elle sentait mauvais. Alors, l'élève, je lui dis, tiens me voir à la fin de l'heure. Donc, il vient me voir à la fin de l'heure, je lui dis, t'as senti? Elle sentait mauvais, je suis d'accord avec toi. Je dis, bon, t'en as déjà senti des gens qui ne se lavent pas? Oui. Est-ce qu'elle sentait quelqu'un qui ne se lave pas? Non. Ben, je dis, maintenant, je vais t'expliquer. Elle sent quelqu'un qui n'a pas de chauffage à la maison. Donc, elle sent l'humidité. Parce que sa maman, elle n'a pas les sous pour payer le chauffage. Donc, elle n'a pas le chauffage à la maison. Voilà, c'est ça, notre quotidien.
Alors, je ne suis pas du tout professeure. Je ne vis pas la même chose. Mais c'est vrai que... Alors, ça fait 10 ans que je suis dans Lyon. Et je n'avais jamais vu autant de misère. Parce que moi, en travaillant au service intendance, on est confronté justement à ce problème. Ils ne mangent pas à leur faim, ils ne mangent pas à midi. Il y en a qui n'ont pas d'argent pour payer la cantine. Donc on essaye de faire, de les aider du mieux qu'on peut. Mais ce n'est pas toujours évident parce qu'on a une comptabilité aussi à tenir. Alors, on a un budget quand même pour aider certains, mais c'est, si vous voulez, il y a une sélection aussi. Dans tout, il y a une sélection. Et d'autres qui n'osent pas, ils passent à travers cette aide éventuelle. Si vous voulez, le service n'ira pas chercher ceux qui n'ont pas d'argent. Ils doivent venir nous le dire et ils n'osent pas.
Ben, quand vous regardez ces élèves-là, quand vous observez ces élèves-là, ils prennent sur eux énormément, énormément de choses, quoi. Et donc, ils ont, eux, beaucoup de souffrances intérieures.
Oui, donc c'est vrai que le fait de faire de la sophrologie, c'est une façon aussi de nous protéger et pour être mieux avec nos élèves, quelque part. Parce que forcément, si le prof n'est pas bien, les élèves le ressentent.
À moi, c'est simple. Mon refuge, mon lieu de calme, c'est un rayon de soleil. Donc, ça peut être n'importe où. Mais c'est un rayon de soleil. Et parfois, il m'arrive même d'arrêter le cours et de dire aux élèves, regardez...
Si quelques pensées parasites subsistent, et je dis aux élèves, subsistent,
parce qu'ils rentrent chez eux, ils sont démoralisés, etc.
Laissez-les venir et repartir,
avant
tout
de vous
simplement.
Endormir, au lieu de vous endormir avec vos soucis, vous allez prendre le point positif de la journée. Ça peut être un copain qui a été sympa.
Je vous invite
vous a fait un sourire.
À faire quelques respirations profondes.
Endormez-vous là-dessus.
En vous félicitant d'avoir pris ce moment pour vous.
Mais voilà, moi, c'est un rayon de soleil, c'est tout. Donc ça peut être n'importe où, c'est ça qui est bien.
Hôpital de Dieu, bonjour.
Bonsoir.
Bonjour, mesdames.
Ça va?
Ça va, pas mal.
Pas mal, ben c'est bien.
Ça va, oui.
Ouais, vous êtes tout prêt pour la nuit?
Voilà, madame.
Vous avez besoin de quelque chose?
Non.
Vous avez eu mal hier dans la
non,
nuit?
Non, j'ai pas eu mal. Juste un peu en bas, là, ça se...
Et vous avez besoin de rien d'autre pour la
ben
nuit?
Non, non, je vous remercie de votre amabilité.
Je vois que vous n'avez pas d'ancienne, là. D'accord.
Moi, si je cherche.
Bon, ben, allez, à tout à l'heure.
À tout à l'heure, messieurs, dames. Bonne soirée.
Je fais mon tour du soir. Je distribue les somnifères. Un petit coucou, rassurer les gens, voir si tout va bien. Voilà, voir si le service va fonctionner pour la nuit. Là, je suis sur la chirurgie et la médecine. Si c'est plein, je dois avoir une vingtaine de lits, il faudrait que je compte. Et là, ce soir, c'est pas trop plein. Il faut avoir 12 malades, 13 malades. Donc ça va. Voilà, c'est ça le travail de nuit, c'est que... On doit être un peu partout, surveiller les bruits, les dysfonctionnements du bâtiment, savoir réparer ce qui ne va pas, si on peut. Donc là, il dort, donc je ne le réveille pas. Il m'appellera un peu plus tard dans la nuit s'il a besoin. Il avait un médicament pour être détendu, mais ça, c'est pas grave. Moi, je préfère les laisser dormir que leur couper le sommeil, puis...
Bonsoir, je suis Sophie, l'infirmière de nuit. Bon, ça va ce soir? Vous avez pris vos remarques pour le moment? Ouais. Voilà, moi je suis là toute la nuit. Donc s'il y a quoi que ce soit, il ne faut pas hésiter, vous pouvez sonner, je viendrai vous voir. Si vous êtes inquiet, si vous avez des douleurs, besoin de quelque chose. Ça a été la permission? Vous avez profité?
J'ai profité, oui, j'ai pu faire ce que je devais faire. Quoi.
Ouais.
Je m'occupais.
Vous avez quoi comme animaux, vous?
Des brebis, en ovins, viande, en vente directe. Donc, on commercialisait avec une qualité, une proximité, quoi. Mmh. Alors que maintenant, on va tout centraliser dans des grosses exploitations et la mauvaise bouffe, elle va passer par là. Mmh. Voilà, malheureusement.
Et comment ça se passe, là, quand vous n'y êtes pas? Ils se débrouillent? Ouais.
Elle déprime un peu.
Ben ouais. Il faut aussi prendre le temps de vous soigner.
Surtout, ouais.
Ouais.
Il faudra soigner aussi les autres agriculteurs qui vont venir. J'ai arrêté ma profession au mois de janvier. Et quand vous vendez votre troupeau et que vous n'avez plus de bêtes à vous occuper et que vous n'avez plus de son et d'odeur et de couleur dans votre bergerie, et que vous prenez une décision qui est quand même une trésorerie assez grave, alors que c'est vous qui prenez la décision, et c'est des gens qui vous mettent dans cette situation, ils oublient que derrière cet individu, il y a quand même un lien familial. Donc voilà, c'est très dur à vivre, quoi. C'est très très dur à vivre. Ouais, c'est une genre de petite dépression, on va dire. On est dans un pays avec des syndicats qui tiennent les rênes, et qui ne nous défendent pas, finalement. On se rend compte que finalement, tout ce qu'ils racontent, c'est des conneries, c'est pour en tirer un peu plus profit pour eux, quoi. Je parle de la FNSEA en particulier, quoi. Et malheureusement, aujourd'hui, ils défendent leur gagne-pain, mais un gagne-pain qui est éphémère. Ça s'appelle une prime. Ça s'appelle pas une coopération. Donc, les petits exploitants, nous, on est voués à disparaître pour ces gens-là qui sont en train d'être des cumulards et qui touchent les subventions. Gracieusement. Aujourd'hui, on représente rien sur le pourcentage d'électorat. Donc, les hommes politiques, ils vont écouter les gros syndicats, mais les petits, ils vont nous laisser mourir. On est 38 dans la Drôme et 600 nationales, aide dans mon cas. Donc, je vous dis pas combien de personnes vont peut-être passer l'arme à gauche, parce qu'on dit qu'il y a un agriculteur sur deux qui se suicide. Enfin, il faut tout recadrer et voilà, repartir d'un bon pied, mais pas trop rebondir, sinon on se fait mal à la tête. Et je me suis fait mal à la tête.
Voilà. On a des gens qui sont malades de leur profession en France, en travaillant 20 heures par jour.
Bon, à tout à l'heure. S'il y a besoin, on fait une petite tisane. Moi, je suis là toute la vie. Oh, je suis pas en avance ce soir. Ça fait 15 ans, moi, que je travaille de nuit. Ouais, j'ai fait le choix des nuits pour les enfants. Parce qu'avant, les horaires, c'était 21h, 7h. Donc, comme ça, je l'ai couché. Et puis le matin, je les croise un peu avant qu'ils aillent à l'école. Je suis levée quand ils rentrent de l'école pour les voir, les activités. Je refais le repas et hop, je repars quand ils se couchent.
Et vous dormez quand?
Le matin, quand je rentre de 8h à 13h à peu près. Bon, c'est une habitude, tout le monde. Ouais, c'est une habitude. Mais bon, je m'y suis retrouvée. J'étais dispo pour les enfants, donc moi, c'était ma priorité. Donc, et puis j'aime bien l'ambiance de nuit. Parce qu'on est tranquille, on n'a pas de médecin, on n'a pas les cadres, on n'a pas le téléphone qui sonne tout le temps. On est deux avec nos malades, on a une certaine autonomie. Et ouais, ça me va bien. En gros, c'est trois nuits, quatre repos, ou des fois on fait trois nuits, deux repos. Des fois on fait qu'une nuit, des fois on fait deux nuits, des fois quatre. Voilà, il n'y a pas vraiment de rythme régulier. Physiquement, ça serait bien que je repasse deux jours, parce que j'ai une fatigue chronique. Voilà, j'ai des symptômes des tachycardies, je me réveille souvent la nuit. Non, il y a des conséquences, mais bon, voilà. Pour le moment, je fais encore comme ça. Il faudrait que je prenne plus soin de moi.
Et votre mari fait quoi, lui?
Il travaille dans une entreprise de plantes aromatiques. Quand je travaille, il rentre, qu'on se croise un quart d'heure. On achète des post-it. Marie-Claude, comment ça va ce soir?
Que ça va bien.
Ça va bien.
Qui je sors lundi?
Ouais, fais la maline.
T'es au courant?
Ben oui, je sais tout.
Que...
Marie-Claude, je vous mets le somnifère dans votre petit gobelet et vous le prendrez.
Ah oui, mais mon gobelet, je l'ai donné.
Je vais vous en attraper un autre.
C'est mon comprimé dodo.
Qu'est-ce qui vous a amené ici, vous?
Au point de mes maladies, mes jambes. Vu le poids, mes jambes, elles en ont ras-le-bol.
Elle aime bien venir nous voir, Marie-Claude.
Oh oui.
Voilà, elle a plus de moral à la maison.
Ça va revenir.
Oui.
Bon, allez faire votre petit tour.
À tout à l'heure.
Oui, à tout à l'heure.
Vous m'appelez s'il y a besoin. Je vous souhaite la même nuit qu'hier.
Ah, moi aussi.
Bon, donc on s'est vu tout à l'heure. Voilà. Ah, ça y est, vous avez apporté le titre de séjour de madame. Ah, ok. Donc surtout, pensez bien quand vous déposez un document de mettre votre numéro d'allocataire dessus. Hein, tu dis à ton papa de mettre le numéro absolument sur les feuilles. C'est très important parce que au moins on est sûr de ne pas égarer la feuille parce qu'on peut faire des confusions avec d'autres numéros. Hein.
Donc ce monsieur, au début de la conversation, je lui ai demandé s'il parlait français et c'est très compliqué pour lui. Mais tout de suite, il m'a dirigé vers son enfant. Donc nous, c'est toujours un peu problématique parce que parler de choses administratives avec un enfant de cet âge, c'est toujours délicat. Enfin, on voit qu'il maîtrise énormément la langue et on voit que c'est l'enfant qui fait tout dans la famille.
Le numéro, voilà, c'est toujours ce numéro-là. Ah ben voilà, vous l'avez fait la photocopie.
Pas bien,
si. Le problème, c'est que quand on fait une photocopie, les cartes de séjour sont tellement petites que sur nos appareils, ça passe pas. Alors, vous l'avez déjà fourni, mais c'était complètement illisible. Donc ça, c'est le gros problème des cartes de séjour, hein, qui sont vraiment minuscules. Oui, mais comme malheureusement, on n'arrive pas à voir les dates, bah, le technicien, il se trouve devant une carte de séjour qui, pour lui, est illisible. Il ne peut pas travailler avec cette carte-là. Et les titres de séjour dans un dossier d'allocataire, c'est la chose la plus importante. Puisque c'est ça qui vous dit oui, vous avez le droit ou non, vous n'avez pas le droit aux prestations. Et là, moi, je vois que votre titre de séjour, il était sur l'écran jusqu'au mois de février 2017. Et on attendait le renouvellement. Alors, vous l'avez envoyé, mais malheureusement, ce n'était pas lisible. Ça, je vais vous le rendre. Je vais faire les photocopies pour les enfants. Hein.
Pour résumer, le monsieur, il a toutes les pièces. Et ça fait combien de temps qu'il aurait dû toucher son allocation?
Bah là, on est quasiment à 2 mois. Qu'est-ce que ça me sort là?
Ça rame un peu là.
Ouais, alors moi, ça me gêne toujours de faire attendre les gens parce qu'on est derrière l'appareil qui ne suit pas. Pardonnez-moi, je vais essayer de forcer sur la couleur. Ça m'a l'air un peu plus lisible.
Même vous, vous n'arrivez pas à faire une photocopie, comment lui peut y arriver?
Bah je pense. Oui, voilà. Rien que dans votre question, et tout se tient là. Tous les jours, on se rend compte que c'est un gros problème. C'est vrai que c'est quelque chose qui, je pense, est à revoir au niveau national. Enfin bon, moi, malheureusement, je ne suis pas là pour restructurer tout ça. Mais je veux dire, quasiment là, en 2 allocataires, c'était 2 problèmes de titre de séjour.
Voilà. Ça, vous pouvez ranger.
Mon père, il voulait demander une question. Il a dit que l'argent, il a demandé, ça change. Quand ?
C'est assez long pour travailler sur le dossier. Donc le paiement du 6 avril, il n'y aura pas de paiement. On va travailler sur le dossier de ton papa d'ici 15 jours à peu près. Et il y aura un paiement 10 jours après. Donc ça, vous déposez, mettez bien dans l'enveloppe. Ok, voilà, bonne journée. Au revoir, monsieur.
Bonjour, madame.
Bonjour, monsieur.
Qu'est-ce qui vous amène ici ?
Je viens ici pour un contrôle de dossier vis-à-vis de ma feuille trimestrielle que j'ai remplie correctement, mais on me renvoie quand même un dossier pour que je le refasse encore une fois. Alors la feuille trimestrielle, en fait, c'est un papier qu'on remplit pour déclarer nos ressources tous les 3 mois. Et là, j'ai eu un accident au travail, malheureusement pour moi. Donc j'étais en arrêt de maladie suite à mon accident de travail. Donc je suis venue déclarer mes revenus comme quoi que j'étais à la sécurité sociale pendant 3 mois. Voilà.
Et qu'est-ce que vous percevez en fait de la caisse d'allocation familiale ?
Je perçois une prime à l'emploi de 207 euros quand même, qui est encourageant on va dire, tous les mois, selon les salaires que je gagne, et 205 euros d'APL sur un loyer de 380. Et là, je fais du ménage industriel.
Et vous gagnez combien ?
Je gagne 800 euros.
Donc si vous ajoutez votre salaire et les prestations sociales ?
On va dire, allez, 1100 euros, on va dire. Tout dépend les mois que je fais en heure, monsieur. Mmh. 1100 euros à 1002.
Et vous en sortez ?
Je vais être franche avec vous, monsieur. Là, je vais en recouvrir encore un petit peu. Mais vu que je travaille et que je vais monter en heure, je vais perdre toutes mes prestations pour le SMIC. Pour le SMIC. Voilà. Alors que j'aurais pu rester, je suis déclarée en longue maladie. Je vous dis honnêtement, je touche plus à la sécurité sociale que mon salaire. Je vous dis honnêtement, mais non, je préfère retourner travailler.
Et c'est quoi votre boulot à vous, concrètement? Faites quoi?
Concrètement, je fais du ménage. Je fais du ménage. Je travaille aux édites de nuit, le week-end. Et j'ai du ménage industriel dans les usines, dans les bureaux et particuliers. C'est dur. Oui, c'est dur. C'est dur. C'est physique. Et plus je passe une formation pour être laveuse de vitres, pour pouvoir monter sur une nacelle, et qui me permettra d'évoluer dans ma société. C'est-à-dire qui me renouvelle mon contrat de plus haut. Mais je préfère ça que d'être dépendante de l'État, on va dire.
Donc en fait, vous allez travailler davantage et vous allez toucher la même chose.
Si c'est presque pas moins.
Un peu moins.
Ouais, carrément. Parce que travailler, bah oui, monsieur, c'est quand même valorisant. C'est valorisant que de venir chercher son RSA tous les mois, quoi. C'est surtout pour ça, on va dire, pour avoir un statut et le soir rentrer bien fatigué, se dire, ok, je suis fatigué, ok, je vais peut-être gagner moins, ok, je vais peut-être avoir les impôts, ok, je vais avoir tout ça sur les côtes. Mais on voit, voilà, je suis dans le système. Et la CAF n'est pas là pour entretenir les gens. Voilà.
Bah, a priori, il n'a pas le droit à l'allocation logement.
Ah, il n'a pas le droit.
Il n'a pas le droit à l'allocation logement parce qu'aujourd'hui, on est en avril 2017. Nous travaillons avec les ressources de l'année 2015. Et là, ce monsieur, en 2015, avait encore des revenus. On travaille toujours à N-2. D'accord. Donc ça, à remplir et à déposer en boîte aux lettres.
D'accord. Alors, merci beaucoup.
Voilà.
Bonne journée.
Bonne journée, au revoir. Donc voilà, là aussi, on est encore dans un autre problème, c'est le fait que les gens comprennent bien cette année de décalage. Donc là, vous avez un monsieur qui, malheureusement, a des problèmes de santé. Mais vous voyez, c'est quelqu'un qui est dans l'inactivité, mais qui n'a pas le droit à l'allocation logement parce qu'il avait des revenus il y a 2 ans.
Vous avez fini, vous, alors ?
Voilà, moi, j'ai fini. Voilà, je vais pouvoir aller faire mon repas ce midi.
Et après, l'après-midi, vous reprenez la même activité ?
Alors ici, on a réussi, après discussion avec la direction, de restructurer le guichet parce que les guichets, on le fait par demi-journée. On a 2 activités parce que faire du guichet sur une journée complète, c'est trop épuisant. Moralement, j'ai envie de dire. Physiquement aussi, mais aussi moralement, psychiquement. Ma famille peut me dire si j'ai fait du guichet sur une journée complète ou sur une demi. Ça se voit parce qu'on... Quand on rentre sur 8 heures de guichet, on est vidé. Moi, je m'épanouis à recevoir du monde, mais il arrive au bout de certaines journées où je dis « Mais pourquoi je fais ça ?» Et le lendemain, ça repart. Quoi, parce que je pense que les gens qui font du guichet, c'est les gens qui aiment ça. On est dans l'empathie, mais il n'y a pas que des cas difficiles. Il y a aussi des cas où... Quand vous avez des couples qui viennent pour une déclaration de grossesse, pour un calcul, qu'est-ce qui va se passer avec mon enfant, il y a aussi des bons dossiers, mais il y en a quand même beaucoup moins. On est quand même un service qui traite l'urgence, et puis les gens qui n'ont pas d'argent, malheureusement.
Aujourd'hui encore, c'était Les Pieds sur Terre, place de la République, 19e épisode, sophrologie somnifère et photocopieuse, un reportage de Pauline Mocor, Olivier Minot et Rémi Douat, réalisé par Cécile Lafont, avec un coup de main de Benjamin Hu. Merci à Annie Bellu, à Anne-Laure Kieffer, à Marlène Ravatin, à Victoire Hudol, à Claudine Fredouille et à Nicole Bénard pour le lycée, ainsi qu'à Véronique Guichard, j'allais l'oublier. Merci à l'hôpital, à Sophie et Francine, et enfin à la CAF, à Karine Corme, à Pascal Legrand et à Simon Suret et à Eric. Sandrine Chaperon, c'est l'attachée de production des Pieds sur Terre, des commentaires, des réactions, des likes, des tweets et des retweets. C'est sur les réseaux sociaux, nous avons une page Facebook et un compte Twitter qui vous attendent avec impatience.